Vous écoutez
RMC.
Vendredi 5 juin.
L'info sur RMC.
Il est 6h. Céline Kallmann est là pour les dernières informations. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Fin de partie pour l'étude controversée sur l'hydroxychloroquine. Trois des quatre auteurs de cette enquête publiée dans The Lancet demandent la rétractation de l'article. Explication dès le début de ce journal. Cérémonie d'hommage à George Floyd, très émouvante hier soir à Minneapolis. 8 minutes 46 secondes de silence observé, le temps qu'a duré son interpellation mortelle. Nègre, singe, fils de juif, des policiers de Rouen renvoyés en conseil de discipline pour des propos racistes et antisémites, échangés en privé sur la messagerie WhatsApp RMC. Il est 6h, bienvenue à tous. Nous ne pouvons plus nous porter garant de la véracité des sources des données. Voilà ce qu'ont écrit trois des quatre auteurs qui avaient signé une étude parue dans The Lancet, étude qui a eu un retentissement mondial du jour au lendemain. L'OMS a même décidé l'arrêt du plus grand essai clinique sur l'impact de l'hydroxychloroquine sur le Covid-19. En fait, une start-up américaine est soupçonnée d'avoir fourni des données entièrement falsifiées à plusieurs équipes. Paul Barcelone.
Des données médicales récoltées par une entreprise américaine, Surgisphere, qui appartient au quatrième auteur de l'étude. Pour les trois autres, impossible de les analyser de manière indépendante. Ils ont donc préféré se rétracter. Une décision que salue Yanis Roussel, le porte-parole de l'IHU de Marseille, où exerce le professeur Raoult.
Très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes majeurs dans ce papier. D'abord, le fait que les données n'étaient pas traçables. Il n'était pas possible de savoir de quels hôpitaux elles venaient. On ne pouvait même pas savoir de quel pays elles venaient. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait des incohérences. Par exemple, en Australie, il y avait plus de morts dans l'article qu'il n'y avait eu de morts dans le pays au même moment.
Pour Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital de Garches, cette étude n'a de fait plus aucune valeur scientifique.
C'est un véritable fiasco parce que ça met à mal, à mon avis, la communauté scientifique au sens large. Et ça rend d'autant plus compliqué les choses parce qu'on va avoir un certain nombre de malades qui ne vont plus vouloir rentrer dans ces études.
Les auteurs de l'étude présentent leurs excuses au lecteur du Lancet après avoir suspendu ses essais sur l'hydroxychloroquine au lendemain de la publication de l'étude. L'OMS a annoncé leur reprise mercredi.
En France, l'épidémie de coronavirus a entraîné 44 nouveaux décès dans les hôpitaux en France. Le conseil scientifique chargé de guider les pouvoirs publics dans la gestion de la crise recommande de se préparer à quatre scénarios probables allant d'une épidémie sous contrôle à une dégradation critique. Édouard Philippe et Emmanuel Macron ont reçu hier à l'Élysée pendant presque 4 heures les partenaires sociaux. La mobilisation générale pour l'emploi a sonné, un chantier titanesque pour éviter une vague de licenciements. Syndicats et patronats vont travailler donc avec le gouvernement pour revoir la réforme de l'assurance chômage. Et il y a urgence aussi pour sauver l'emploi des jeunes. Près de 800 000 arrivent cette année sur le marché du travail. Un plan sera présenté le mois prochain. Des annonces ont déjà été faites. Victor Joannin.
Éviter à tout prix que les embauches d'apprentis dégringolent à la rentrée, c'est l'objectif de ce plan d'urgence. Ainsi, l'État versera jusqu'à fin février une prime de 8000 euros pour les apprentis majeurs et de 5000 euros pour les mineurs. Cette aide est aujourd'hui de 4125 euros et elle est réservée aux TPE et aux PME. Elle sera ouverte à toutes les entreprises, même pour les apprentis en licence professionnelle. Coût pour les finances publiques, plus d'1 milliard d'euros. Le gouvernement s'engage aussi à ce que chaque apprenti reçoive au moins une offre d'embauche. Et si ça ne suffit pas, ils auront 6 mois pour se trouver une entreprise contre seulement 3 mois aujourd'hui. Enfin, ils se verront offrir un ordinateur portable pour suivre les formations à distance. Une mesure pour rendre la filière plus attractive, selon le ministère du Travail.
Alors que des manifestations se poursuivent partout dans le monde pour dénoncer les violences policières, le racisme, la cérémonie d'hommage à George Floyd s'est déroulée hier à Minneapolis, dans la ville où a été tué l'Afro-Américain de 46 ans. Cédric Fesch, vous êtes le correspondant de RMC aux États-Unis. Cédric, l'hommage a démarré avec un geste très fort et symbolique.
Ça y est, les quatre policiers impliqués dans la mort de George Floyd ont tous été arrêtés. Les trois derniers policiers ont été arrêtés hier et inculpés pour complicité d'homicide. Ce sont les trois collègues du premier policier arrêté vendredi dernier, 4 jours après les faits. Celui qui avait maintenu son genou sur le cou de...
Vous voyez, vous venez de voir que c'était donc pas le bon sujet. Oui, ça arrive. Non. Un petit problème technique. Je vous disais donc qu'il y a eu beaucoup d'émotions, lors de cet hommage à George Floyd hier soir à Minneapolis. Pendant ce temps-là, une barrière, une sorte de mur métallique a été installée tout autour de la Maison Blanche. En Autriche, au moins 50 000 personnes, des jeunes en majorité, ont manifesté à Vienne. Mobilisation également à Lille lors d'une manifestation non déclarée. Au moins 2000 participants. Des heurts ont éclaté vers 20h30. Les forces de l'ordre faisant usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. C'est dans ce contexte que l'on a appris hier que 4 policiers de Rouen avaient été renvoyés en conseil de discipline pour des propos racistes. Les fonctionnaires ont été mis en cause en décembre 2019 par un de leurs collègues noirs. Il a découvert un groupe de messages audio sur WhatsApp avec des propos racistes, sexistes, antisémites, nègres, bougnoules, fils de juifs. Voilà ce qu'il a pu entendre. Grégory Joron, secrétaire général délégué Unité SGPFO Police, dénonce le racisme de quelques individus.
Que ces collègues-là soient traduits devant un conseil de discipline, je ne vois pas ce qu'il y a de dérangeant, il n'y a rien de plus normal et c'est heureux pour l'institution que ça fonctionne comme ça. Le racisme existe dans la société française. Après, je ne pense pas que la société française soit raciste, pas plus que la police ne l'est. C'est aussi une généralité qui est dangereuse et qu'il faut aussi, à mon avis, combattre, tout comme le raciste. Moi, les amalgames, quel que soit le côté, j'ai horreur de ça. Voilà, donc c'est faux d'affirmer que la police est raciste.
Voilà, et nous reviendrons sur le sujet juste après votre journal, Céline. Et nous parlerons aussi de ce policier qui a été insulté lors de la manifestation mardi soir de soutien à Adama Traoré. Insulté par une manifestante parce qu'il est noir, ce policier. Il a été traité de... Il est traître, tout simplement.
Et il a porté plainte. Dans l'actualité également, 2 policiers ont utilisé leur arme près du siège de la République en marche. Hier, ils voulaient stopper un automobiliste qui refusait d'obtempérer, qui aurait foncé sur un fonctionnaire. L'homme a été interpellé. Il y aura sans doute du monde sur la route ce week-end. C'est le premier où l'on peut s'éloigner à plus de 100 km de son domicile. L'occasion de retourner voir ses proches et pourquoi pas aussi de visiter l'un des premiers monuments historiques à rouvrir, le domaine de Chambord. Romain Poiseau.
Archiviste, conservateur, guide, tout le monde s'y met pour nettoyer le château avant l'ouverture.
Pour l'occasion, eh bien, c'est le ménage.
Aspirateur à la main, Virginie est chargée de recherche au service de la conservation.
Chauves-souris, des oiseaux se sont laissés aussi enfermés dans le château, donc ils ont fait pas mal de dégâts. Oui, on sent que le château a vraiment vécu sans nous.
Alors, dehors les chauves-souris, place aux touristes.
Le gel hydroalcoolique bien installé.
Guillaume Trouvé, directeur des bâtiments et jardins, contrôle le dispositif sanitaire mis en place avant l'ouverture.
On a fait un parcours fléché à l'intérieur du château.
Mais que les visiteurs se rassurent, le château a été conçu à la Renaissance pour éviter la propagation des virus.
Déjà sous François Ier, ils avaient peur des épidémies. C'est pour ça qu'on a un espace qui est très aéré naturellement et les couloirs sont très larges. L'escalier à double révolution. On monte par un sens et on descend par le sens sans jamais se croiser.
Habituellement, le domaine accueille en moyenne 2500 visiteurs par jour, mais le directeur général, Jean Dossonville, ne se fait pas d'illusions.
On n'aura pas les groupes scolaires, les groupes de seniors, ni les visiteurs internationaux. On s'attend à faire un petit mois, ce qui, en même temps, sur le plan sanitaire, règle beaucoup de problèmes, parce que ça règle les problèmes de jauge.
Il attend avec impatience la réouverture des frontières européennes. À Chambord, 35% des visiteurs viennent de l'étranger.
Et puis je termine avec une des infos de la nuit. Le chef de l'opposition vénézuélienne, Juan Guaido, le grand rival de Nicolas Maduro, se trouve dans l'ambassade de France à Caracas. C'est ce qu'affirme en tout cas le ministre des Affaires étrangères du pays.
Merci Céline. On vous retrouve tout à l'heure pour toutes les informations, évidemment. Il est 6h08.